Les séminaires du Collège de France.
On va reprendre, on va commencer, et je vais commencer tout simplement par rappeler en fait la manière avec laquelle j'ai pensé ces séminaires. Comme je l'ai dit dans la leçon que je viens de donner, l'idée était de ne pas m'enfermer, quand je dis m'enfermer avec moi-même, c'est-à-dire de me retrouver uniquement à inviter des artistes. Non pas que ce n'est pas intéressant, au contraire, c'est passionnant, mais il y a un danger dans l'enfermement, mais aussi, surtout, parce que l'idée pour moi était d'essayer d'être à l'image le plus près possible de la manière avec laquelle j'entretiens le rapport à l'écriture. Or, ce rapport à l'écriture s'entretient énormément avec des questions qui n'ont strictement rien à voir, entre guillemets, avec l'écriture, des questions qui sont liées à la vie des abeilles, comment on fabrique une baignoire, comment on procède à une autopsie d'un corps d'un enfant, tout un tas de questions qui finit par agir sur moi un peu comme un accélérateur de particules. Je prends l'exemple exprès, c'est-à-dire que dans un accélérateur de particules, vous avez un atome qui est bombardé par des électrons pour le fissurer, pour le fragmenter, et de cette fragmentation apparaît d'autres sources d'énergie, mais l'atome ne pourrait absolument pas se fragmenter par lui-même. Il a besoin d'être bombardé par des particules qui ne sont pas lui. Et bien, d'une certaine façon, c'est ce qui se passe lorsque je vais m'intéresser à un sujet qui n'est absolument pas de mon domaine. C'est comme si je me mettais la tête dans un accélérateur de particules et que j'étais bombardé par des notions que je ne pouvais même pas imaginer parce que je ne les maîtrise pas. Et donc les séminaires ont été construits un tout petit peu de cette manière-là, d'une certaine façon, nous mettre en présence de savoir, d'expérience, de passion, qui ne sont pas celles de la création, mais qui, au fond, on s'en fiche, puisqu'il y a une sorte de rapport à la vie qui... d'unité dans le rapport du point de vue qu'on regarde. Hein. Un artiste regarde d'un point de vue, un astrophysicien regarde d'un point de vue, mais on regarde tous un peu le même objet qui est notre présence dans cet univers-là. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pensé ces séminaires. Et donc tout au long des séminaires, vous allez rencontrer des entomologues, des sociologues, des restaurateurs d'art. Et aujourd'hui, on rencontre deux astrophysiciens. La raison pour laquelle j'ai penser à inviter deux astrophysiciens, c'est parce qu'évidemment, il était énormément question de ce rapport au commencement et comment on commence et qu'est-ce que ça veut dire commencer. Par ce rapport à la métaphore, qu'est-ce que c'est lire et écrire? Et si on prend l'univers comme un espace de lecture et d'écriture, comment l'univers s'écrit? Est-ce que ça s'écrit? Et est-ce que nous le lisons? Et est-ce qu'on lit quel langage? Est-ce qu'il a un alphabet? Avec quel outil on utilise? Et au fond, il suffit d'entendre parler quelque temps un astrophysicien des étoiles pour que très vite, par métaphore, tout devienne écriture. On se dit, mais c'est comme l'écriture. Et c'est à cette expérience-là que j'avais envie de vous inviter. L'idée aussi était de trouver des gens qui ont la réciprocité, si je puis dire. C'est-à-dire des personnes qui portent une connaissance dans un domaine qui n'est pas celui de l'écriture, mettons, mais qui ont une sensibilité à la poésie, qui vont être en mesure de comprendre cette invitation que je fais. Alors... Je vais donc vous présenter les deux personnes que j'ai vraiment très très grand bonheur de connaître, de rencontrer. Et puis c'est ça qui est aussi magnifique dans cette aventure du Collège de France, c'est que Étienne et moi on se connaissait, mais grâce à Étienne j'ai rencontré Michel, et c'est une rencontre vraiment extraordinairement importante pour moi. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc je commence par vous présenter Michel Cassé. Alors je vais lire ce que j'ai écrit. Donc astrophysicien, ex-directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, commissaire avec Hervé Chand et Jean-Pierre Bourguignon de l'exposition mathématique « Un dépaysement soudain » à la Fondation Cartier pour l'art contemporain en 2011. Et puis, je vous présente Étienne Parizeau, qui est chercheur au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, professeur à l'Université Paris-Cité et membre de l'Institut universitaire de France, et aussi vice-président de l'association Jamais sans elle, une association qui agit en faveur de la mixité dans tous les domaines de la société pour une gouvernance partagée. Alors, la manière avec laquelle on s'est dit que nous allions procéder, je vais d'abord donner la parole à Michel. Et puis ensuite, on reviendra, Étienne et moi. Je ferai une lecture de l'intitulé du cours et Étienne pourra prendre la parole. Ensuite, de quoi nous échangerons de bon aloi, de bon concert, etc. Et puis j'essaierai de garder 20 minutes pour des questions, si jamais vous avez envie de poser des questions. 20 minutes. Voilà. Donc Michel, on te laisse la parole. Merci. Avec un grand bonheur.
Voici la première équation de l'astrophysique. Il faut encore avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante, dit le poète philosophe. Les atomes du Soleil parlent aux atomes des yeux le langage de la lumière. Le Soleil est notre frère. Nous sommes nés du même nuage. La naissance est obscure, personne ne s'est vu naître, mais l'évolution est claire. Le non-vu est le prochain visible. Donc je dédie cette ode à Cieux, à tous les acteurs du monde et de l'arrière-monde. Je l'ai intitulé « Ainsi s'éteint la Genèse » ou bien « Silence sur l'origine ». Mais la question ne s'éteint pas. Chers collégiens et collégiennes, Jason et Jason de l'azur, la nuit, vous faites votre bleu. Vous êtes fait pour lâcher les freins du ciel. L'amour d'une chimère est le plus fidèle des amours. Infini peut-être, il s'étend encore. L'amour, l'univers, peut-être, mais le poème, certainement. L'illimité est dans Wajdi. Il trempe le vieux voile d'Isis dans l'eau des ténèbres. Nous dirions aujourd'hui dans l'énergie noire, écarteuse d'espace, pour en exprimer goutte à goutte ou à grand flot une poésie sombre, telle Lucrèce, lue par Victor Hugo, revisitée par Pierre Hadot. Toute clarté se paie d'un mystère. Toute parole devient lumière. Le commencement crie vers nous. Nous sommes Étienne Parizeau et moi, comme des bulles dans son champagne généralisé. Je remercie du fond du ciel Wajdi de nous donner l'éclat, l'éclatement peut-être aussi, en ouvrant au Collège de France les portes du palais du Ovide fleuri. Le vide banque et agence de relations publiques, géniteur de lumière, père de la lumière, et des siècles. Les astronomes, ou plutôt les innommés, sont dans l'attente. L'attente, ou l'attente. La Trinité est dans les protons. deux quarks U et un quark D font un proton. Deux quarks D est un quark et un quark U font un neutron. Lorsqu'un proton se transforme en neutron, alors s'envole un neutrino. Plume d'ange. La querelle de notre siècle n'est plus le sexe des anges, mais la masse des neutrinos. Au commencement est l'incertitude. Zéro est trop précis pour être quantique. Zéro est un instant dans un temps qui n'existe pas encore. Le noir des trous est trop franc pour être quantique. Donc les trous noirs ne sont ni trous ni noirs, comme le dit Stephen Hawking, ils sont gris sur les bords. L'amour d'une chimère est le plus fidèle des amours. Nous sommes au temps béni où la matière parle. Ce dont on ne peut parler, il faut le dire. Et croire à ce qui n'est pas absurde. Les instituts d'astrophysique sont les studios où s'écrivent les scénarios de Big Bang et d'explosions stellaires. Les physiciens astrophiés, réécrivent la Genèse en termes physico-mathématiques et l'Apocalypse. Il y a Genèse et il y a meurtre. Meurtre de l'antimatière qui est le double antagoniste et mortel de la matière. Et ceci me remet en tête le mythe de l'androgyne platonicien. Aristophane prend la parole et dit « Au commencement, les êtres naissaient doubles. Ils avaient la deux polarités, ils étaient parfaits et complets. Zeus, jaloux, a demandé à Arès, le dieu de la guerre, de les séparer en deux, et les deux entités n'eurent de cesse qu'à se retrouver. Et quand ils se retrouvèrent, ce fut la béatitude. De même, la matière et l'antimatière sont nées de la lumière dont le signe est zéro, parce que les photons sont de masse nulle, je dirais au repos, mais ils ne le sont jamais, parce qu'arrêter la lumière, c'est tuer. Observer, c'est tuer. Les photons disparaissent dans l'œil pour devenir électricité. Nous sommes tous des assassins. Donc les physiciens astrophiés réécrivent la Genèse. Mais il y a Genèse et il y a généalogie. Les étoiles sont les mères de nos atomes. Elles naissent comme des rats. Stars égale rats. En inversant les lettres. Oui, comme des rats, des chats ou des lapins, par lignée. Les nuages entre les étoiles accouchent de légions d'étoiles. Ce sont les pères, mères, des étoiles. Je n'ai jamais su discerner le sexe des nuages. Et donc, ce sont nos grands-pères-mères, nos grands-mères-pères. Mamé, le nuage. Papé, le nuage. Nous avons domestiqué électrons et photons, comme Mustang ou loup. À notre tour, nous sommes apprivoisés par les étoiles. Et les voiles. dans lesquelles nous voyons les mers cosmiques de nos atomes. Elle prépare le règne du fer. Le fer est le roi de la création nucléaire. Mais le fer ne régnera pas, faute d'étoiles. L'esprit de l'observateur s'infiltre dans la jeunesse turbulente de l'univers jusqu'au jour orageux de son enfance. Enfance de qui ? Enfance de l'univers. Et où ? Enfance de l'observateur. Dans la jeunesse turbulente de l'univers, sont l'hydrogène et l'hélium uniquement. Dans notre genèse, cosmos vient avant chaos. Contrairement à la Bible, car l'entropie, c'est-à-dire le désordre, ne fait que croître. Donc au début, était le cosmos. Croître au fil du temps, selon le second principe de la thermodynamique, qui est le plus métaphysique des principes. Car qui touche au temps, touche au réel. Les femmes et hommes de Dieu sont dans le désert de la foi. Les hommes et les femmes de science sont dans le désert des équations. Quel est le sens de ces déserts ? La physique est une esthétique du peu. E égale kT, E égale mc2, E égale h nu, E égale moins gm sur r, où E est l'énergie, T est la température, M est la masse, C la vitesse de la lumière, H la constante de Planck, nu la fréquence, et G la gravitation, sans oublier R la distance. En fait, la distance est abolie. L'astronome n'a pas plus peur de la distance que le chirurgien craint le sang. Le soleil est à une seconde lumière, incidemment. L'homme n'a pas mis le pied au-delà d'une seconde lumière, alors que Andromède, la galaxie semblable à la nôtre, notre sœur, est à 2 millions d'années-lumière. Mais nous n'y allons pas à pied. Les concepts sont donc frères ou sœurs, frères et sœurs. Espace-temps et matière font trinité, inséparable, comme les quarks dans le proton, ou les trois dimensions de l'espace. C'est pourquoi nous croyons en quarks. Petit h, petit c et grand g, ces quelques lettres cryptiques suffisent à encarter le monde. Il y a de l'éternité et de l'imprimerie dans la physique, n'est-ce pas, Étienne ? Infini peut-être, il s'étend encore. I break mon fusil of words toward le ciel. Pour paraphraser, quoi je dis ? Le ciel, le grand ciel des anges, a cédé sa place à un décor de papier et d'équations. Depuis, nous nous demandons ce que nous sommes. Mais ciel demeure la parole qui convoque les technologies galopantes et les âmes cheminantes. N'est-ce pas, Étienne ? Nous allons dans la Lune, mais Sophocle est notre contemporain. Les étoiles jouent dans l'économie générale de l'univers le rôle d'artisans consciencieux et mathématiques. Elle transforme le simple en complexe et le cri de joie, c'est la lumière. L'arithmétique est dans le ciel. La virginité, comme la nuit, sont du domaine des apparences. Le soleil des neutrinos ne se couche jamais. Dans le ventre de votre mère, comme cela a été dit, vous fûtes transpercé par 60 milliards de neutrinos par centimètre carré et par seconde. Et à l'heure qu'il est, ou en plein minuit, votre tête est percée par 20 000 milliards de neutrinos par seconde. C'est peut-être l'origine du rêve. Mais j'en doute. Au commencement est la répétition. Il y a une chaîne physique de la Genèse. Vide, lumière, matière, et finalement vide, au sens quantique du terme. Je parle du vide. De Maillon, toujours plus long. 10-32 secondes pour le premier, 50 000 ans pour le second, 5 milliards d'années pour le troisième et probablement l'éternité, sauf accident du vide. Un jour, le proton mourra et il ne restera plus que photons et neutrinos. Mais auparavant, le soleil s'éteindra, guéri de sa lumière, et débordera ses frontières, mes frères. Alors, tous les atomes des morts ensevelis sous la glèbe seront dans le soleil, et venus des étoiles, nos atomes retourneront aux étoiles. Et son cœur solidifié noircira doucement pour ajouter du noir à la nuit. En vérité, je vous le dis, les étoiles ne meurent pas. Elles passent d'une perfection lumineuse à une perfection obscure. Ainsi s'éteint la Genèse et disparaît la mort, dirait Parménide. L'astrophysique, née science, se dissoudra en poésie. Alors la science sera aimable. Le commencement n'en finit pas de se construire. La nature ne ment pas, mais elle ne commente jamais ses déclarations. Elle parle avec des éclairs, des cieux bleus ou sombres, ou par la voix d'Étienne Parizeau. Je lui cède la parole, modèle d'ubiquité.
Merci, merci beaucoup Michel. On reparlera de ce que tu as proposé après l'intervention d'Étienne. Alors, je vais faire la lecture de l'intitulé de ce séminaire. Et je voudrais le faire parce que quand on a préparé ce séminaire, Étienne a exprimé à plusieurs reprises qu'il y avait des choses qu'il y avait dans cet intitulé, qu'il avait envie de... il avait envie de revenir dessus, enfin de parler à partir de là. Donc, je le lis tel qu'il est. Alors, certaines langues n'ont pas d'infinitif. D'autres posent leur sujet à la fin des phrases. D'autres encore n'ont rien pour dire le verbe être. Si l'on regarde l'univers et son évolution comme un langage, serait-il plus juste d'entendre la langue qu'il parle ou plus juste de lire le texte qu'il écrit ? Et dans un sens comme un autre, quelle en serait la grammaire ? Et de quelle manière parvient-on à lire et à entendre ? De quel outil dispose-t-on ? En quoi les mystères qui entourent l'origine de cette écriture peuvent éclairer les raisons pour lesquelles l'écriture, et plus largement la création, se dérobe toujours à l'ombre d'un mystère ? Donc c'est ce qui était l'intitulé. À présent, évidemment, il y a eu entre-temps la leçon. Et à présent, ben, Étienne, je te laisse la parole.
Merci. Bonjour. C'est dur de passer après Wajdi et Michel. Effectivement, ce petit résumé m'inspirait beaucoup en le lisant. Et en fait, c'est surtout des questions que je voulais te poser dans la mesure où tu fais la distinction entre une langue qui se parle et un texte qui s'écrit. Et s'agissant de l'univers, s'agit-il d'une parole ou d'une écriture ? Je ne suis pas sûr de savoir comment tu vois la différence. Donc peut-être on en parlera après. Je me pose aussi la question, est-ce que c'est l'univers qui parle ou est-ce que c'est nous qui le faisons parler? Et pour reprendre les thèmes que tu as abordés, Wajdi, et aussi Michel, sur l'origine, chercher l'origine de l'écriture comme de l'univers, c'est toujours, ça peut conduire qu'au brouillard. Michel a dit juste à l'instant, j'ai pris le temps de le noter, personne ne s'est vu naître. Effectivement, personne ne s'est vu naître, l'univers non plus, probablement. Et tout commencement se situe dans les limbes. Ça mène à l'obscur, les origines sont obscures, mais dans ta leçon inaugurale, tu entendais un peu cette obscurité dans le sens d'une douleur cachée, parfois. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui aussi, tu as parlé d'une honte cachée, aussi. Je ne sais pas non plus si je suis d'accord avec ça, mais c'est intéressant d'en parler. Je verrais plutôt l'obscurité de l'origine en termes d'illisibilité, en fait. C'est-à-dire que les éléments de la lecture du monde que nous avons sont de moins en moins signifiants quand on se rapproche de l'origine. Et en fait, le sens émerge de ce qui n'en a pas initialement. Et c'est pour ça que je voulais dire un mot de l'émergence, qui est une notion importante en physique, contrairement à ce qu'on pense. Tu as parlé aussi ce matin, enfin tout à l'heure, d'épiphanie. Cette émergence, c'est toujours l'émergence de... Enfin, c'est l'apparition de concepts qui ne sont pas présents originellement. Et c'est quelque chose d'important en physique. En physique quantique, il y a cette fameuse expérience de pensée du chat Schrödinger. On dit beaucoup de choses idiotes à propos de ce chat Schrödinger. On se demande comment le chat Schrödinger peut être à la fois mort et vivant. C'est une profonde bêtise, évidemment. Un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant, ou alors les mots n'ont aucun sens. Vivant exclut mort, mort exclut vivant. Donc, si on redéfinit les mots, oui, on peut aussi bien dire que le chat est blouf et prof en même temps. Ça ne veut rien dire. Le chat ne peut pas être mort et vivant. Mais le point clé à comprendre, c'est qu'en fait, le chat ne peut pas être mort et vivant. Déjà parce qu'il n'y a pas de chat. Le chat n'existe pas dans l'univers. Il n'y a pas de chat. Il y a des atomes, des molécules, on va dire, qui sont assemblés d'une certaine façon, mais il n'y a pas d'atome non plus en réalité. Un atome n'est pas un objet de la physique. Si on va plus profondément, je ne dis pas qu'on va jusqu'au bout, parce que je ne sais pas jusqu'où ira la physique, mais actuellement, en tout cas, la physique ne parle pas en langage d'atomes, de molécules. On parle de champs quantiques. Ok, on ne va pas faire un cours de physique quantique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de champ félinique, il n'y a pas de champ wajdique ou de champ michaélique. Les choses qui se manifestent à nous, la manière dont nous lisons le monde, sont différentes, ces choses, des mots avec lesquels de la grammaire, pour reprendre ce que tu disais dans ton texte, laquelle est écrite la réalité physique. Et ça, c'est important de le comprendre, parce qu'on a beaucoup parlé d'écriture, tu as beaucoup parlé d'écriture, je voudrais peut-être parler de lecture, en fait. On a une lecture de l'univers, et c'est ça un monde, en fait. C'est-à-dire, je ne voudrais pas parler de l'origine de l'univers, mais peut-être de l'origine d'un monde, du monde. Et le monde, c'est déjà une lecture particulière de ce qui est et qui est obscur. Effectivement, parce que ce n'est pas écrit en termes d'objets qui ont du sens. Si je lis un texte, je lis des mots. Si je vais plus profondément, un mot, c'est un assemblage de lettres. Mais si je lis les lettres, une à une, déjà, ça devient très peu clair. Mais en fait, les lettres sur le papier là, sur lequel j'ai écrit tout à l'heure, c'est des assemblages de petits points d'encre. Mais ces points d'encre n'ont pas de sens en eux-mêmes. Donc il y a quelque chose qui émerge à partir de ce qui n'en a pas vraiment. Et peut-être, on peut faire une petite expérience de pensée. Voyez ça. Ceci est une craie, d'accord ? Si je cherche à expliquer pourquoi il y a cette craie ici, à cet endroit-là de l'espace-temps, là maintenant, il y a cette craie avec une teinte rouge d'ailleurs. Mettons, il y a du calcaire, il y a un atome de calcium là. Si je veux expliquer pourquoi il y a un atome de calcium ici, en principe, cet atome de calcium, il est là à la suite d'une longue chaîne causale. Le calcium naît dans les étoiles, Michel pourrait vous en parler longuement. Cet atome a subi des forces et au fil les lois de la physique l'ont amené là, ici. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi il y a cet atome de calcium ici, maintenant, si on n'a pas une idée de ce que c'est une craie, en fait. On voit une craie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une craie ? Il n'y a pas de champ craïque non plus, ça n'existe pas, une craie. Et pourquoi il y a une craie ici ? Parce que nous sommes dans un environnement, dans un endroit qui s'appelle le Collège de France, où on est censé pouvoir écrire. Je vais écrire, du coup, pour le faire. Écrire, voilà. Je préfère lire, en fait. Je crois que nous lisons l'univers. Mais pour comprendre ce que c'est qu'un Collège de France, ce que c'est qu'une... Merci, Michel. Ah, voilà ta trinité. D'accord. Il va falloir comprendre ce que c'est que transmettre quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau ? Pourquoi on a besoin l'idée de transmission de connaissances, vous voyez bien qu'on parle de choses qui n'ont rien à voir avec la manière dont l'univers est rédigé, en fait. C'est-à-dire que effectivement, il y a une chaîne causale qui amène l'atome de calcium ici, mais la véritable raison de cet atome ici, c'est que quelqu'un l'a extrait d'une mine de craie, etc., dans le but de qu'on soit là et qu'on essaye de se transmettre des choses, de dialoguer. Donc, la manière dont on lit le monde n'a rien à voir avec la manière dont il est écrit, et au point qu'on peut se demander si c'est pas nous qui l'écrivons, en fait. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on lit bien les choses ? J'avais pas pensé qu'on pouvait projeter des choses, j'ai imprimé des images, je ne pensais pas qu'il y aurait des gens en tant que ça, mais vous connaissez cette image, je la montre vite fait, vous connaissez cette fameuse illusion, certains vont voir une vieille femme, certains vont voir une jeune femme, d'accord ? Je pense que vous connaissez tout ça. Puis il y a la même avec cette image-là. Certains voient un lapin, mais c'est un canard aussi. Certains voient un canard, certains voient un lapin. Ça dépend comment vous le voyez, ça peut basculer dans votre conscience. Alors, c'est un lapin ou c'est un canard ? Le chat est mort ou le chat est vivant ? En fait, la raison pour laquelle... c'est à la fois, soi-disant, un canard et un lapin, c'est qu'il n'y a ni canard ni lapin. Il y a des lignes écrites, il y a des lignes tracées sur un papier. Mais quel papier ? Quelle feuille de papier ? Ça veut dire quoi ? Il y a des atomes, il y a des champs quantiques qui sont dans un certain état particulier. Et nous les lisons d'une certaine façon. Alors on pourrait dire, oui, ça c'est l'aspect culturel. On a appris, par une sorte de convention qu'on s'est transmise, on a appris à reconnaître ici soit un lapin, soit un canard, ça nous parle. Mais je pense qu'on peut aller aussi loin que dire que les atomes eux-mêmes sont une lecture particulière de la réalité physique, dont j'ignore ce qu'elle est. Mais notre description du monde est aussi culturelle. Les atomes sont culturels. Peut-être les lois de la physique aussi sont culturelles. Il y a quelque chose, et au fil de l'évolution, on a fait émerger un sens au sein de... On a organisé, c'est-à-dire un sens aîné de ce qu'il y a, de ce qui est, de ce qui se passe. Tu disais tout à l'heure, ça écrit, ça c'est... En fait, c'est vrai de l'histoire, mais c'est vrai de l'univers lui-même, c'est vrai de la réalité physique telle qu'on y accède. Et donc, c'est un peu ça que je voulais évoquer. Le chat, le fameux chat de Schrödinger, vous connaissez tous l'histoire, Schrödinger met un chat dans sa boîte, dans une boîte fermée, et puis il y a une petite fiole avec du poison, et puis il y a un dispositif radioactif qui a une certaine probabilité de se désintégrer, puis si ça se désintègre, la fiole explose et le chat est mort, le chat est vivant. Et en fait, quand on décrit les choses quantiquement, on s'aperçoit que l'état des champs quantiques liés à la désintégration, c'est pas ça s'est désintégré ou ça s'est pas désintégré, mais c'est ça s'est désintégré, un demi ça s'est désintégré, plus un demi ça s'est pas désintégré. Et du coup, il n'y a pas un chat vivant ou mort, il y a un demi chat vivant plus un demi chat mort. Mais c'est absolument pas un problème parce qu'encore une fois, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de fiole non plus, il n'y a pas de boîte. Il y a les champs fondamentaux quantiques, fondamentaux pour autant qu'on sache pour l'instant, mais le principe serait le même. Il y a les champs quantiques qui sont dans un certain état, et cet état est la somme de deux états, exactement comme vous avez ici plusieurs spots lumineux. Si j'en allume un, ça donne un certain état du champ électromagnétique. Si j'en allume un autre, ça donne un autre état du champ électromagnétique. OK. Et si j'allume les deux en même temps, eh ben, ça donne un nouvel état du champ électromagnétique qui se trouve être la somme des deux. C'est quoi le problème ? Ben, c'est pareil pour le chat de Schrödinger. Vous avez l'état, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de fiole, il n'y a pas de boîte. Il y a un certain état des champs quantiques fondamentaux. Il n'y en a pas 36 000, hein, le champ électromagnétique, le champ des différentes particules élémentaires. Et cet état... Disons, il existe un état possible de ces champs que nous lisons comme un chat vivant. Il existe aussi un état possible de ces champs que nous lisons comme un chat mort. Eh bien, exactement comme allumer un projecteur puis l'autre, il existe un état tout à fait banal du champ quantique qui contient les deux composantes. Et donc, il n'y a pas un chat qui est vivant et mort. Il y a un champ quantique que nous pouvons lire comme un chat vivant et dont une composante s'interprète en lecture interne de l'intérieur du monde comme un chat vivant, et aussi il y a une composante qui s'interprète comme un chat mort. Donc, vous voyez, le problème, c'est que... Enfin, ce n'est pas un problème, c'est la solution, en fait, à l'obscurité de l'univers. Dans ta leçon inaugurale aussi, tu parlais de ce trésor caché qui aspire à se connaître. En fait, le sens permet, en quelque sorte, à l'univers de faire sens de lui-même. Et donc, il y a des lectures qui peuvent émerger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut imaginer n'importe quoi. Si je lâche cette craie, elle tombe. Ça, c'est une lecture possible du monde. La lecture dans laquelle je lâche la craie et elle se met à partir vers le haut, cette lecture n'est pas compatible avec Je ne sais pas ce que c'est que la réalité profonde derrière, mais la lecture où Lacré montrait, elle n'existe pas. Donc, c'est pas je peux faire n'importe quoi, mais néanmoins, il est possible, de fait, on en est tous témoins, il est possible de lire le monde en termes de craie, on peut écrire des mots qui font sens, etc., en termes de chat, de boîte et de fiole de poison. On peut lire le monde comme ça, c'est extraordinaire, mais tout ça émerge au fil de la longue évolution. Donc, le sens, donc, si on va chercher l'origine, on va tomber sur le mur que, en remontant de plus en plus fondamental, justement, on élimine tous ces mots qui sont nés a posteriori, enfin au fil de l'évolution, au fil des choses, et donc forcément qu'on tombe sur l'obscur, puisqu'on finit par arriver à un langage qui ne fait plus sens, en fait. Encore une fois, l'univers, la réalité physique telle qu'on la décrit aujourd'hui au niveau le plus fondamental, n'a aucune idée de toutes les notions avec lesquelles on lit l'univers, ou l'univers se lit à travers la perception qu'on en a. Bon, peut-être faut que je m'arrête, mais voilà ce que je voulais dire. En tout cas, tout est écriture, mais tout est lecture en réalité, et probablement que, en fait, nous écrivons le monde en le lisant. En fait, l'écriture et la lecture, c'est un peu la même chose. Bon, merci.
Michel, est-ce que tu aurais envie de poursuivre, de réagir?
Oui,
et tu peut-être de nous expliquer ce que tu as dessiné au tableau?
Oui, absolument. Voilà. Mais je voudrais proposer un changement de perspective.
Ton micro? Oui, il faut que tu parles dans le micro.
Pardon.
Bon, il faut que tu te rapproches du micro.
Je me rapproche. Hein. Bon. L'astrophysique, je dois le préciser, n'est pas une doctrine du salut. Je disais, vous m'entendez au fond? L'astrophysique n'est pas une doctrine du salut. Ce qui est ici est comme ce qui est là-bas. Ce qui n'est pas ici est nulle part. Ne cherchez pas le paradis. Les caravelles altières de la cosmologie se perdent dans le brouillard milieu, du temps. C'est tout ce que je voulais vous dire.
Tout à l'heure, quand tu disais tout est lecture, tout est écriture, mais tout est lecture, est-ce que... Alors, j'avais deux questions que j'avais envie de te poser, parce que c'est une question que tu m'as posée, mais j'ai, pour pouvoir te répondre, j'ai besoin que tu la déploies un tout petit peu plus. Quand tu dis, dans l'obscur, il y a une douleur cachée, et tu parlais de la honte, mais que tu n'es pas tout à fait d'accord, et tu le dis avec une telle délicatesse. est-ce que tu pourrais développer là-dessus pour que je puisse te répondre éventuellement? Avec quoi tu n'es pas tout à fait d'accord?
En fait, je pense que ce qui est écrit, c'est pas cette ombre, c'est au contraire la lumière qui cherche à percer. La lumière qui peut-être manque encore à l'appel, qui ne s'est pas encore découverte, peut-être. Mais du coup, c'est pas l'ombre qui est la cause de ça, en réalité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
C'est obscur.
En fait, non mais, en fait, il n'y a pas de nuit noire. Michel et toi aussi, vous l'avez répété, l'univers est transpercé de neutrinos en particulier, mais de lumière aussi. Il n'y a pas un endroit dans l'univers qui n'est pas lumineux. Il y a de la lumière partout, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Alors c'est de la lumière, c'est des ondes électromagnétiques, c'est pas de la lumière à laquelle notre œil est sensible, d'ailleurs heureusement, sinon on serait... aveuglé en permanence, mais dans chaque centimètre cube de l'univers, le coin le plus reculé du cosmos, dans chaque centimètre cube de l'univers, il y a en permanence 400 photons. de ce rayonnement diffus cosmologique. La lumière est partout. En fait, je ne crois pas à l'ombre. En fait, c'est peut-être ça.
Mais... Je ne crois pas à l'ombre. C'est ça, oui, oui.
Mais moi, je crois en quartz.
Mais oui.
Mais oui, effectivement, tu distinguais l'écriture et la parole. Ça m'intéresse parce que toi, tu es un auteur et un metteur en scène, un auteur et un acteur de théâtre. Donc, entre l'écrit et la parole, comment tu vois l'architecture ? Ce que tu demandais, est-ce que l'univers est une parole qui se dit ou un texte qui s'écrit ? Ça m'intéresse d'avoir.
À partir du moment où tu écris. Il y a très concrètement, tu arrives le matin avec un texte que tu as écrit pendant la nuit. Ce texte n'existait pas avant. C'est toi qui m'as appris que dans Racine carrée de 2, il y avait tout, que tout était déjà là. Puisque si on prend toutes les formes finies et qu'on les décline en nombre, ce nombre est quelque part dans racine carrée de 2. Donc ça veut dire que quelque chose était déjà... Enfin, ce que je n'ai pas écrit est déjà dans racine carrée de 2. Puisque ce que j'écris est fini. Il va avoir un début, un milieu, une fin. Bon, donc c'est moi, je vais l'écrire. Mais ça n'existait pas ça n'existait pas concrètement. Le texte n'existait pas. Donc j'arrive avec ce texte, je le donne aux acteurs, je dis tiens, j'ai écrit ça cette nuit. Je dis oh, super, génial, j'ai un monologue, il est super content. Bon, ok. Et il va l'apprendre, il va le. Comment l'acteur voit l'auteur ? Comment le spectateur voit l'auteur ? Comment dans notre société on voit un auteur qui écrit ? On dit je vais aller voir une pièce de Joël Pommerat, je vais aller voir une pièce de je sais pas de Yasmina Reza, je vais aller voir une pièce de Valère Novarina, et que chacun d'entre ces auteurs écrit avec les mêmes mots, enfin en français. Mais on voit bien qu'on se retrouve devant un spectacle de Valère Novarina, on n'est pas du tout devant un spectacle de Yasmina Reza, par exemple. Ok, donc on perçoit l'auteur comme quelqu'un qui fait apparaître un monde. Alors l'association, peut-être elle traduit probablement une énorme ignorance de ma part et de la part des gens qui ne sont pas des connaisseurs de la question, mais l'association à la question du Big Bang, de l'apparition d'un univers. Un univers se met à apparaître. Au Théâtre de la Colline, on a un groupe de lecteurs, on reçoit, je sais pas, 400 textes par année, et qui sont lus, et on est toujours dans l'espoir de tomber sur le texte. Donc, au fond, qu'est-ce que ça veut dire de tomber sur un texte qui va nous bouleverser ? C'est d'un jeune auteur ou d'une jeune autrice, c'est qu'on est dans l'espoir d'un univers qui naît, d'un Big Bang inconnu qui surgit, qui apparaît. Donc, l'association à la notion de Big Bang, elle est immédiate. Peut-être qu'en Orient, on voit les choses différemment dans le rapport collectif, je ne sais pas, peut-être on en parlera, mais dans le rapport, en tout cas ici, on dit bien une pièce de machin, j'ai été voir, j'aime pas ce qu'il écrit, ça veut dire quoi ? J'aime pas son univers, j'aime pas son Big Bang, j'aime pas son Big Bang. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, comment le rapport à l'écriture n'est pas du tout le rapport à la lecture. Je ne lis pas le monde, je l'écris. Au fond, c'est comme ça que tout me dit que je sais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écrire le monde ? Ça veut dire être dans un endroit qui n'est pas accessible. Personne ici n'a accès à l'instant de l'écriture. Personne ne peut. C'est même pas que je ne veux pas. Il n'y a pas possibilité d'y avoir accès au moment où j'écris. Donc, ça veut dire que je suis, on va dire, dans une caverne, dans un endroit. On peut l'appeler l'atelier, le bureau. Je suis dans une caverne où j'écris. Et il y a vraiment de l'obscurité. Le temps ne fonctionne pas de la même manière. Au moment où quand j'écris, je me mets à écrire à 14h12. Quand je bascule dans l'écriture, dans ce rapport à sortir les mots. Mais vraiment, je regarde l'horloge, 18h, mais c'est pas possible. Le temps ne fonctionne plus du tout de la même manière. Vraiment, je me dis, l'écriture courbe le temps, c'est sûr. Parce que c'est incompréhensible sinon. Dans cette caverne, bon ben je sors le texte et puis j'arrive, je sors de la caverne, je prends le RER A pour aller au Théâtre de la Colline, à la salle Copie, pour rencontrer les acteurs. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, j'ai vraiment physiquement la sensation de passer une membrane et de traverser une membrane pour aller dans un espace extérieur où je donne le texte aux acteurs. Alors l'acteur, lui, il doit lire. Parce que qu'est-ce qu'il doit faire, l'acteur, pour arriver à l'interpréter, à porter le texte ? Il faut qu'il fasse le chemin inverse. C'est-à-dire que lui, il a une surface qui est, comme tu as dit, un chat qui n'existe pas. C'est ça qu'il a entre les mains. Il a un chat qui n'existe pas. C'est super compliqué. C'est-à-dire qu'il a un texte avec des mots, des lettres, etc. Il faut qu'il le prenne, il faut le lire, il faut qu'il le comprenne et que petit à petit, il fasse le chemin inverse pour retraverser la membrane et essayer de retrouver, par ses propres moyens, la caverne dans laquelle je m'étais au moment où j'étais, au moment où j'ai écrit. Mais pour ça, il n'a que la lecture. Il peut pas. Il aurait beau prendre un crayon et recopier tout ce que j'ai écrit, ça lui donnerait aucune réponse. Au pire, ça lui apprendrait son texte par cœur. Mais il ne pourrait pas trouver l'instant de l'écriture. Il pourrait pas le trouver, cette chose-là. Donc c'est pour ça, si tu veux, quelque part, je me dis, non, l'ombre existe. Alors, c'est peut-être pas la même ombre, mais l'ombre existe et sans elle, c'est impossible d'arriver à l'écriture. Je pourrais pas écrire en pleine lumière. Je pourrais pas. S'il y avait de la lumière, je pourrais pas.
Oui. Alors, on connaît la vitesse de la lumière et on peut se demander quelle est la vitesse de l'ombre. Mais donc, je rebondis pour récuser la notion de Big Bang, qui est une onomatopée tapageuse. Car rien ne peut faire détonner un milieu préexistant à l'univers, puisque l'univers est premier. Et je le récuse une nouvelle fois, parce qu'il agit ou il émerge ou il jaillit une fois pour toutes, et tout en une fois. Alors que la création procède par séquence.
Tu peux expliquer ce que tu dis par et procède par séquence, parce que ça m'intéresse vraiment.
Nous nous sommes laissés dire, Étienne et moi et d'autres, que l'univers est une trinité clair-obscur, composée de matière et énergie, mais matière et énergie sont liées par la fameuse relation E égale MC2, qu'il y a un rapport entre l'énergie et l'espace, parce que la matière courbe l'espace. Incidemment, je dirais que Einstein a posé la matière dans l'espace. L'espace s'est courbé et lui a fait sa révérence. L'espace et le temps sont liés par la vitesse de la lumière. Une seconde lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une seconde. Quant à l'énergie et le temps, ils sont liés. Et ceci a été découvert par la plus grande mathématicienne de tous les siècles qui s'appelle Éminetaire. Il serait souhaitable que les féministes le fassent valoir. Elle a établi une relation entre l'énergie et le temps, en faisant valoir que la conservation de l'énergie n'est rien d'autre qu'une propriété du temps, ce qu'on appelle symétrie temporelle, qui veut dire que ce que une expérience réalisée maintenant dans un jour ou il y a un jour donne les mêmes résultats. Ce qui veut dire que le temps est homogène sans césure, sans rupture. Et donc cette trinité inséparable, a priori, font valoir l'émergence, en effet, de cette relation. Au début est la relation. Mais en fait, toutes ces choses-là ne sont pas simultanées, puisqu'il y a une chaîne physique de la jeunesse. Non, pas de la jeunesse, de la genèse. Et donc, il y a peut-être émergence, mais il y a aussi séquence.
Voilà ce que je voulais dire.
Yes. Je voulais rebondir sur... Donc, tu distinguais l'écriture, enfin, la lecture, l'écriture et la parole. J'ai trouvé très intéressant ton approche de l'infinitif. D'ailleurs, j'ignorais qu'il n'y avait pas d'infinitif en arabe. C'est très intéressant. Est-ce que tu dirais du coup que la parole, c'est justement le passage de l'infinitif, que l'écrit est un infinitif, mais en même temps, toi, tu l'as mis en mouvement. Donc, il y a encore un infinitif caché en amont, puis tu proposes un texte, et après, il est mis en mouvement par la parole. C'est comme ça que tu vois les choses ?
Oui, je sens bien que la parole, après, c'est des choses qui sont liées. J'ai grandi dans un milieu familial où l'agressivité était le béaba du rapport à la parole, c'est-à-dire l'agressivité dans la parole. Ma mère, pour me dire, je sais pas, je t'aime, elle m'engueule, enfin, pour le dire vite, pour me dire, descends la poubelle, elle pouvait vraiment le dire d'une manière qui, pour moi, me semblait tout à fait normale, mais qui, pour un camarade, c'est une histoire qui était marquante, parce que ma mère, qui voulait vraiment que je sois très fier d'elle, quand j'avais des camarades qui venaient à la maison, quand on était au Québec, donc c'était des camarades qui parlaient le français, des amis, elle se démenait pour faire des super gâteaux. Donc on s'installait à 4 heures, c'était le goûter, elle faisait des gâteaux, etc. Et puis, à la fin, elle me disait, n'oublie, je sais pas, tu mettras les assiettes dans le dévier, par exemple. Elle pouvait me dire ça, mais elle me le disait en arabe. Elle me le disait en arabe par délicatesse auprès de mes amis, pour pas qu'ils soient, comment dire, se sentent obligés de devoir, eux, se lever et faire les choses. Donc elle profitait du fait qu'ils ne comprenaient pas pour dire la chose. Et puis, une fois qu'elle m'avait dit, n'oublie pas de mettre les éviers de tes amis dans les assiettes de tes amis dans l'évier, elle s'en allait. Et là, je voyais que mes amis avaient une tête totalement tétanisée. C'est-à-dire, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je me disais, mais il ne s'est rien passé, mais pourquoi elle t'engueule ? Elle ne m'engueule pas. Mais le ton, l'énergie. Donc, j'ai grandi énormément là-dedans. Et cette énergie-là, au fond, elle est une sorte de conjugaison. Mais, comment dire, c'est pas du tout. Ouais, je dis, tu mettras les assiettes dans l'évier. Là, c'est vraiment posé. On ne pourrait pas dire, tiens, elle conjugue. Mais quand c'est vraiment avec une sorte d'énergie vocale, on le ressent comme un passage d'un état à un autre. Enfin, ce passage d'un état à un autre, quand on est enfant, il est extrêmement inquiétant. On a peur. Moi, j'ai peur que ma mère m'engueule tout le temps. Donc, j'ai peur qu'elle passe d'un état à un autre. Et cet autre état est une... Oui, j'ai vraiment une sorte d'électricité. C'est comme si elle envoyait une énergie électrique à l'intérieur des mots qui fait que les mots se mettent dans un état de violence et d'explosion, et qu'il faut, à partir de ce moment-là, uniquement se protéger. Alors, quand j'écris, d'ailleurs, quand je lis, que ce soit la lecture de la leçon inaugurale ou bien là, on verra bien que ce rythme-là, il vient... Et alors, je le perçois précisément comme une conjugaison, c'est-à-dire un passage de l'amorphe au vivant, et à un vivant qui cherche qui cherche à conjuguer le corps de l'autre. C'est-à-dire, moi, quand je joue au théâtre, ou quand je dirige les acteurs au théâtre, c'est l'énergie que je leur demande de dépenser consiste à faire en sorte que le spectateur lui-même se mette à être conjugué à son tour, c'est-à-dire à sortir d'un état, par la parole, par le fait de dire les mots. Alors oui, ça, je le pense vraiment, et je travaille avec des chanteurs à l'Opéra Bastille pour un opéra qui va commencer bientôt, et quand j'entends les chanteurs chanter, il y a des fois où ils marquent, ils font juste marquer pour protéger leur voix, mais il y a des moments où, tout à coup, ils rentrent dans le chant, et là, C'est vraiment une conjugaison, c'est incroyable. Une conjugaison de quoi ? C'est une conjugaison de la partition écrite par Debussy, du texte écrit par Maeterlinck, mais comme tu dis, c'est rien, c'est des notes, c'est rien, c'est des notes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand tout à coup, on entend Sabine de Vielle se mettre à chanter l'acte, scène 1, acte 3, c'est ce qui se passe physiquement, c'est comme si on entrait dans un diamant. On entre dans un diamant. Grâce à la manière avec laquelle elle porte la voix, comment elle conjugue le chant, comment il a été écrit, composé. Et là, oui, on passe d'un infinitif à une conjugaison. Et ça, c'est pour moi vraiment un élément vraiment fondamental quoi, dans l'écriture, dans tout acte de création et même dans tout acte de rapport, dans l'amour, dans l'amitié, dans le rapport de travail avec les gens. Comment on conjugue notre rapport aux gens voilà.
Très bien, merci. Michel, tu veux dire...
Oui, juste un mot. Donc, à vous entendre, il y a de l'éternité dans la nature et il y a du mouvement. Toute clarté se peine un mystère.
Yes, ça restera mystérieux, afin que ce soit clair. Michel, tu as parlé de la relation. Je pense que c'est important toutes tes relations.
Oui.
Et je pense que c'est important qu'on en parle parce que quand moi je dis poser la question de la grammaire de l'univers, à mon avis, c'est clairement, enfin, c'est les mathématiques, mais les mathématiques, ce n'est rien d'autre qu'une explicitation des relations cachées. Donc peut-être tu peux en dire un mot.
Ben, je dirais qu'il y a,
j'ai l'impression
il y a Parménide, ce triangle, et il y a Héraclite.
Alors,
vous voulez que je...
Oui. Alors, puisque tu parles de Parménide, parce que quand on a discuté tous les trois il y a quelques temps, on parlait du vide. Parce que, alors, d'abord, Michel a écrit un livre qui s'appelle « Du vide et de la création », qu'il faut absolument lire, n'est-ce pas ? Et en fait... À un moment, je me souviens que ça t'avait plu, j'avais donné une définition du vide qui est, je crois, la définition physique, enfin en physique du vide.
Oui, ça c'est exceptionnel, ça c'est vraiment exceptionnel. J'avais demandé qu'est-ce que c'est le vide et Étienne a donné cette réponse.
Et j'ai répondu, mais en fait, le vide, c'est ce dont on ne peut rien ôter. Et c'est vraiment ça en fait.
Le matin.
Pardon. Alors cette phrase-là, elle est vraiment extraordinaire, hein, tu sais, parce que le nombre de fois où tu te fais dire, tu travailles avec ton équipe, tu es à une semaine de la première, et là tu coupes, tu recoupes, tu fais oui, mais ça on va virer, là tu réunis les acteurs, tu leur dis ok, on va couper la scène, je dis mais non, tu peux pas couper la scène pour mon personnage, c'est absolument vital, oui je comprends, mais bon, il faut quand même couper,
le spectacle fait déjà six heures.
À un moment donné, arrive ce moment où quelqu'un dit là je pense qu'on ne peut plus rien enlever
le matin,
et ben, que ce soit
vous.
Ça la définition du vide,
c'est
extraordinaire, comme si en fait l'œuvre, une œuvre d'art qui atteint à peu près son état de cohérence, c'est lorsqu'elle touche le vide, enfin, lorsqu'elle...
épurée, ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que donc je parlais des champs. Donc voilà, il y a le champ électromagnétique, le vide de lumière, c'est pas de champ électromagnétique, c'est un champ magnétique dans un état tel que on ne peut plus rien lui ôter. On peut plus lui ôter un photon, par exemple, des choses comme ça. Donc vraiment, le vide, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental en physique, qui n'est pas rien, évidemment. Ça n'a aucun sens de dire rien. D'abord, rien ne veut rien dire. Donc c'est ce dont on ne peut rien noter, et puisque Michel, tu parlais de, enfin tu évoquais Parménide, je me souviens toujours cette affirmation la plus profonde, la plus puissante et la plus définitive.
Le non-être n'est pas.
L'être est et ne peut pas ne pas être.
Le non-être n'est pas.
Il est, l'être est, il ne peut pas ne pas être. Et donc effectivement. le vide, il n'y a plus rien qui... Disons, le non-vide, c'est des choses qui pourraient ne pas être. Et à la fin, il reste le vide, qui n'est pas rien, qui est.
Alors, de notre côté, c'est parfait, c'est clair.
Merci, Michel.
Héraclite dit qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Et donc, la physique est une esthétique du peu, mais elle coule. Je dis la physique est une esthétique du peu, mais elle coule.
Peut-être que le temps qui reste, on peut l'ouvrir aux questions que vous auriez envie de poser éventuellement, que ce soit des questions qui concernent la leçon de tout à l'heure ou alors ce qui en ce moment est en train d'être dit pendant ce séminaire. Donc on a des micros, si vous voulez prendre la parole et vous poser des questions, vous n'avez qu'à lever la main. Voilà, il y en a une là-bas. Voilà.
Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions respectives et pour ce cours d'astrophysique pas banal. Je voulais vous poser une question qui m'est revenue régulièrement pendant vos différentes leçons. Monsieur Mouawad, vous avez parlé du commencement. Monsieur Cassé, vous avez parlé du temps et vous avez parlé du renversement du temps qui justifie la conservation de l'énergie. Et monsieur Parisien nous a expliqué de nous méfier des concepts qu'on utilise pour décrire justement le monde. Et on utilise en physique cette idée du coup de renversement du temps, comme vous l'expliquez, monsieur Cassé. Or, il me semble, en écriture aussi, qu'on peut avoir cette notion de temps, de gestation, j'ai l'impression que vous l'expliquiez, mais l'encre ne remonte jamais du papier jusque dans le stylo. Donc je me demande comment vous voyez et percevez le temps, puisqu'en physique, apparemment, on pourrait le retourner pour extrapoler certaines conservations. Voilà. Donc comment vous imaginez le temps, tous les trois?
Je ne sais pas si on aura le temps. Alors, donc les équations de la physique fondamentale sont réversibles. Et remplacer T par moins T donne le même résultat en mécanique quantique et en mécanique classique. Cependant, Boltzmann a fait valoir un principe considérable, qui est le second principe de la thermodynamique, qui laisse supposer, et ceci est vérifié par des expériences multiples, que l'entropie générale du monde ne peut que croître ou se stabiliser. Incidemment, on peut penser par ailleurs que le désordre est un ordre caché, mais je laisse ça pour l'instant de côté. L'ordre se constitue dans ce qui brille, en fait. Donc l'entropie générale de l'univers ne fait que croître, mais localement, les étoiles, la Terre semblent s'organiser. C'est parce que le désordre est transporté par la lumière, et contrairement à ce qu'on pense, la lumière est un agent de désordre, dont l'ordre se constitue dans ce qui brille. Mais si on fait la somme de toutes les entropies, donc de tous les désordres de l'univers, y compris les trous noirs, qui sont des grands facteurs de désordre, alors on est amené à penser que le désordre croît. Ce qui signifie, et je l'ai dit, quelque chose de troublant, c'est que si le désordre s'accroît, alors l'univers, dans ses commencements, le commencement ne faisant que se construire, disons, aussi loin qu'on puisse le penser, l'univers était donc en état plus ordonné qu'aujourd'hui. Et donc, il n'est pas nécessaire de supposer qu'il existe un Dieu organisateur qui transforme le chaos en cosmos. C'est plutôt l'inverse.
J'ai la douleur de vous le dire.
C'est intéressant, merci pour la question que vous posez, parce que c'est vraiment le sujet de, ça va être le sujet de la prochaine leçon et du prochain séminaire. On aura avec nous ici Louis Langrais, avec un piano, où on va, il va nous, la question que je lui pose, c'est comment le temps en musique se transforme une œuvre, vit, et on va travailler autour de quelques extraits, le début de Péléas et Mélisande, la fin de, je ne sais plus lequel des Wagner, mais un Wagner, je crois, de Tristan et Iseut, la fin de Tristan et Iseut, et puis la 40e de Mozart. Et à travers ces trois extraits, il va nous, avec Louis, on va vraiment poser la question de comment le temps agit sur une œuvre. Et là où il agit le plus, c'est vraiment dans la musique. Je le vois bien avec un chef d'orchestre, avec les rythmes, les compositions, c'est vraiment... Et alors, pourquoi ça va être ce séminaire-là ? Parce que la leçon va porter autour, justement, dans la question de la narration. Alors, la question que vous posez, qu'est-ce que c'est le temps ? Pour moi, moi, je suis frappé par le fait que, prenez n'importe quel roman, mais n'importe lequel... depuis Don Quichotte jusqu'à aujourd'hui, d'une manière voilée, détournée, vous pouvez tourner la chose comme vous voulez, d'une façon ou d'une autre, mais la première phrase d'à peu près tous les romans, c'est toujours, ça dit toujours la même chose, à peu près, quelqu'un, non plutôt, un jour, donc le temps, dans un lieu, un espace, quelqu'un, un sujet, lui est arrivé quelque chose. Et le roman consiste à raconter ce qui lui est arrivé. Voilà, je vous donne un exemple tout bête. Un matin, au sortir de rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un horrible insecte. Le début de la métamorphose. Je peux vous donner un autre exemple. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se souvenir de ce lointain après-midi au cours duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. C'est le début de 100 ans de solitude. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Mais vraiment, vous pouvez à peu près tous les prendre. Alors, il y en a qui sont un peu plus malins, il y a toujours des auteurs qui cherchent à faire le malin du style fauteuil, c'est la première phrase, point. Et puis ensuite, il continue. Mais au fond, il peut tourner la chose comme il veut, c'est toujours quelqu'un, quelque part. Un jour, lui est arrivé un truc. Or, dans ce quelqu'un, quelque part, un jour, quelqu'un lui est arrivé un truc, l'élément, le paramètre le plus particulier, c'est le temps. C'est comment le temps se joue en littérature et dans le théâtre et dans l'écriture. Donc ça va être beaucoup le sujet autour duquel je vais tourner la semaine prochaine. Et voilà.
À moi. Alors, parler du temps, comme dit saint Augustin, le temps, si on ne me demande pas, je sais ce que c'est. Si on me demande, je ne sais plus. C'est vrai, essayez, on sait tous ce que c'est que le temps, mais essayez de dire ce que c'est, et d'un seul coup, on est confronté au fait que c'est impossible, évidemment, parce que, d'abord, pour parler, ça prend du temps. Pour penser, on a besoin du temps. Il y a une pensée qui vient après une autre, il y a un enchaînement, donc cet enchaînement... Alors, je rapprocherai ça de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, c'est aussi ce que tu disais là. On lit des histoires dans ce qui est quoi que ce soit, et en fait, cette notion d'histoire est capitale. Quand on écrit, on raconte des histoires, mais la physique est une explicitation d'une lecture particulière de l'univers en termes d'histoire. En relativité, il y a ce qu'on appelle l'univers bloc, c'est la découverte de l'espace-temps. L'espace-temps, c'est une entité géométrique, tout est donné, tout est là. Einstein a découvert que la notion de simultanéité n'existait pas, il n'y a pas de notion de maintenant ailleurs. Maintenant ailleurs, ça n'existe pas. Dire maintenant à Tokyo, ça a l'air de parler de quelque chose. Maintenant là-bas. Non, maintenant là-bas, ça ne veut rien dire parce qu'il suffit que je me déplace, si je me mets à bouger, le maintenant là-bas, dans le maintenant que je peux reconstruire, cette notion d'instantanéité, de choses qui se produisent au même instant, se trouve un autre instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'instantanéité. En réalité, donc, on perçoit le monde en se disant, enfin, la manière dont on se représente le monde incorpore le temps d'une façon très singulière, qui touche à l'ontologie, en fait, au sens où on considère que le passé n'est plus et le futur n'est pas encore, et que ce qui est, c'est ce qui est maintenant. Ce qui a été n'est plus, ce qui sera n'est pas encore. En réalité, dans la mesure où maintenant ne veut rien dire, et ça c'est un fait parfaitement établi par la physique, il n'y a pas de maintenant, par conséquent, ça ne veut rien dire que le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore. C'est pour ça qu'on parle de cet l'espace-temps, c'est l'ensemble des événements de l'univers, et c'est pas que l'événement suivant, il viendra après. Non, l'événement, c'est l'événement, les événements sont là, voilà l'univers bloque, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a un temps là-dedans, de même qu'il y a un espace, il y a une dimension, enfin, il y a quatre dimensions, c'est l'espace-temps, mais il n'y a pas une succession. La succession fait partie de la lecture. Donc, on lit l'espace-temps, la réalité physique, disons, on la lit en termes d'histoire. Et donc, l'histoire s'écrit, et certaines histoires sont possibles. L'histoire, et je reparlais du chat de Schrödinger, il y a dans ce qui est, la réalité de l'espace-temps avec les champs physiques dans l'état, l'état des champs physiques distribués dans l'espace-temps, l'ensemble des événements, il y a une lecture de ça en termes de chat mort. Il y en a une autre en termes de chat vivant, il y en a une en termes de Schrödinger qui ouvre la boîte et qui voit le chat mort, le chat mort, un chat n'est ni mort ni vivant, mais voilà. Bref, et alors, pour autant, je voudrais juste m'assurer que je n'ai pas induit une fausse idée. Je dis qu'il n'y a pas de chat, mais évidemment, il y a des chats. C'est-à-dire que dire qu'au niveau fondamental, il n'y a ni bois, ni boîte, ni chat, ni fiole, ni Schrödinger, etc., ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas. Elles sont aussi réelles que la réalité peut l'être. Et que, au contraire, si on n'est pas capable de lire l'univers à partir de ces concepts émergents, c'est-à-dire de faire sens de ce qui peut-être n'en a pas, ou en tout cas un sens qui n'est pas accessible à notre notion même de sens, alors c'est là qu'il n'y a rien. Enfin, en tout cas, on peut même pas en parler. C'est juste que ce qui précède, c'est tout ce qui précède le commencement. Il y a pas, voilà, c'est tout ce qui commence avant de commencer. Mais donc, il s'agit pas de dire les choses n'existent pas. Bien sûr qu'elles existent, mais c'est ça qu'il faut comprendre ce que ça veut dire exister. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Merci à tous les trois pour cette conférence. Monsieur Mouawad, c'est plutôt sur la première partie de votre leçon. Souvent, vos personnages sont frappés par un oracle, donc un peu comme ceux délivrés par votre collègue. Et ils s'engouffrent dans le labyrinthe et ils veulent faire la lumière sur leurs origines. Mais si, comme vous le dites souvent, l'identité est un rêve et qu'elle n'est pas fixe, alors pourquoi cette quête de l'origine semble-t-elle essentielle pour se connaître, et particulièrement à notre époque ?
Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Parce que je suis sourd, et la manière avec laquelle, juste plus lentement, allez-y. Juste la dernière phrase.
Pourquoi s'engouffrer dans le labyrinthe semble essentiel pour se connaître ? Alors que l'identité n'est pas fixée à l'origine. Enfin, je ne sais pas si ça a du sens comme question.
Je comprends. Merci. Pourquoi je ressasse ? Pourquoi je ressasse et pourquoi je n'arrive pas à me libérer du ressassement ? Pourquoi ? Pourquoi je ressasse ? Pourquoi je ressasse ? Vous voyez combien c'est désagréable quand on a une... Je ne sais pas, vous, dans la rue, quelqu'un vous insulte et puis vous n'arrivez pas à lui répondre. Vous n'avez pas le talent de la répartie, mettons. Et vous avez un peu le sentiment que vous vous êtes fait clouer le bec. Et là, vous partez, vous vous quittez, c'est une petite altercation toute bête. Vous vous retrouvez dans le métro et vous refaites la conversation. Et là, vous trouvez l'argument, hein, parce que vous êtes seul, puis vous le trouvez. Et puis vous le répétez, et puis vous le refaites. Et puis vous arrivez, puis vous n'arrêtez pas de refaire, et vous refaites. Et vous refaites. C'est comme avoir une chanson dans la tête dont on n'arrive pas à se débarrasser, c'est chiant. Et je me dis, mais arrête de chanter, c'est tombe la neige, c'est bon quoi. Mais bon, vous aurez ça, c'est ok. Maintenant, au bout de la journée, il va y avoir un événement qui va arriver, qui va vous sortir du ressassement, et tant mieux, puis bon, petit à petit, ça s'estompe. Supposons que ce qui est arrivé, ce n'est pas simplement une altercation, c'est quelque chose de plus violent, de plus profond. Et non seulement de plus violent et de plus profond, mais qui même, à la limite, ne vous est pas arrivé à vous, mais arrivé à quelque chose qui a fait en sorte que vous en êtes devenu un peu le dépositaire, un peu comme, on a posé ce verre sur vous, mais ce verre n'est pas à vous. Vous n'avez même pas bu dedans, on l'a posé, puis voilà, mais il est sur vous. Et puis vous ressassez cet objet, vous ressassez quelque chose qui n'est même pas à vous, mais vous ressassez un ressassement qui est le ressassement de quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut, pour arrêter ce ressassement, un dépassement. Il faut dépasser. On ne peut pas arrêter le ressassement sans une forme de dépassement. Ce dépassement, qu'est-ce qu'il est ? C'est le langage qui va décortiquer, qui va pénétrer ce ressassement et le défaire grain par grain, image par image. Mais les images sont violentes, sont très violentes, et elles sont à chaque fois des révélations brutales. J'ai lu dans le journal Le Monde, il y a deux jours, un article absolument bouleversant de trois hommes qui racontent ce que ça a été pour eux de découvrir que leur père faisait partie des SS pendant la Deuxième Guerre. Et ils ont parlé avec une telle émotion, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, parce que on pourrait leur dire, mais c'était pas toi, c'est bon, quoi, c'est bon. Mais on voit bien que c'est pas si simple. Et qu'est-ce que c'est ce moment où on réalise cette chose-là, la violence de cette révélation-là. Dans cet article, les trois racontent comment c'est arrivé, comment ils l'ont su, une phrase. Et ensuite, comment ils ont dû porter ça longtemps. Mais l'un d'entre eux a décidé d'écrire un livre. Bon, mais parce que décortiquer le ressassement, c'est décortiquer grain par grain. Mais chaque grain est une image violente. Il faut avoir le cœur solide. Hein. Et ben là, donc je vais aller pas plus loin parce que ça va être vraiment le sujet d'une autre leçon, qui est le rapport au médium, le rapport à la médiumnie, je sais pas comment le dire, le rapport au chaman, le rapport à la sorcellerie, pour arriver à être en mesure de tourner tous les grains d'un ressassement et de ne pas être écrasé par la violence de chaque image. Donc c'est pas un choix, c'est pas un truc de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Oh bah tiens, ici j'allais... C'est pas une quête de l'origine comme on ferait un exercice de généalogie, c'est tout simplement parce qu'on veut se sortir de ce récit, on veut arrêter, on veut se libérer de cette chose-là, ne pas la transmettre, ne pas faire en sorte qu'elle façonne votre existence et votre rapport aux autres. Voilà. On va prendre encore en fait une question.
Question à propos du vide. Vous avez dit que peut-être une définition serait ce à quoi on ne peut rien ôter. Alors, est-ce que la notion de plein existe ? Et est-ce que ce serait ce à quoi on ne peut rien ajouter ?
Oui. Tu veux répondre, Michel ? On peut répondre en canon.
Alors, vas-y.
Oui, la notion de plein existe. Et on appelle cela le trou noir. La densité, la singularité originelle, qui est un mystère profond. Parce que si on fait tourner
le film de l'univers, de l'évolution de l'univers à l'envers, comme il est en expansion, il se rétracte jusqu'à devenir un point. Donc dans ce point se réfugie toute la matière du monde, donc la densité est infinie. Mais l'infini n'est pas physique. L'infini est religieux ou métaphysique. Et donc c'est une douleur. Je dirais que c'est une catastrophe conceptuelle. Le plein absolu est une catastrophe conceptuelle.
J'aime bien l'idée que tu amènes le trou noir là, parce que je pense que j'étais à peu près aligné là-dessus aussi. Alors, il y a deux types de particules ou de champs dans l'univers. Il y a les bosons et les fermions. C'est le terme. Et alors, un fermion est caractérisé par le fait qu'il ne peut pas y en avoir deux dans le même état. C'est impossible. En revanche, les bosons, on peut en mettre autant qu'on veut dans le même état, on peut toujours en ajouter en fait. Et donc en ce sens, il n'y aurait pas de plein absolu, sauf que, effectivement, au bout d'un moment, à force d'ajouter, à force d'ajouter, on ajoute de l'énergie aussi, et quand on finit par avoir trop d'énergie dans un petit volume, ça forme effectivement un trou noir. Et donc, l'excès de plein, c'est la disparition, en quelque sorte. Alors, il y a une autre chose, on peut le prendre comme une boutade, mais il y a une autre chose à quoi on ne peut rien ajouter, c'est l'univers, puisque c'est tout. Mais justement, on peut aussi voir l'univers comme un trou noir, en réalité, d'un point de vue... il y a une façon de voir l'univers entier comme un trou noir, et de fait, rien ne peut en sortir. Ça répond pas à la question, mais j'ai bien aimé le passage par le trou noir et cet effondrement avec, donc, au fond, il faut pas le concevoir d'ailleurs comme un fond spatial, hein, on se représente le trou noir comme un objet dans l'espace, et puis il y a un centre, et puis tout finit au centre. En réalité, c'est un fond temporel aussi. En fait, toutes les lignes d'univers, c'est-à-dire toutes les histoires qui traverse cet horizon fictif, fictif et pas fictif, fictif au sens où on peut le traverser, on peut l'atteindre et le traverser, donc c'est pas un horizon au sens où il s'éloigne indéfiniment, mais toute trajectoire, toute histoire, toute ligne d'univers qui traverse finit sur cette singularité, et cette singularité est une fin temporelle. Il n'y a rien après, comme il n'y aurait rien eu avant, mais effectivement, peut-être on peut finir sur cette singularité. Et quand ça commence, ça a déjà commencé. Quand ça finit, c'est sans doute pas terminé. Voilà.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.